Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 93e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu après un spécial Mac la semaine dernière. On repart sur, sur des bases saines, mais non, sur des bases normales, on va dire, avec notre sélection donc tout à fait subjective de l'actualité de la semaine en jeux vidéo, culture, app tech et compagnie. Et pour le présenter, comme chaque semaine, je suis en compagnie de mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Salut Fasquille.
Est-ce que ça va bien?
Bah ouais, t'as vu, on a fait un peu long hein, sur le Mac. J'ai bien fait d'épargner ça la semaine dernière.
Ouais. Je pense que je n'aurais pas survécu.
Voilà. Et d'ailleurs, tu fais bien de préciser subjectif parce que cette semaine, évidemment, c'était le 3. Et j'en ai mis plein de la subjectivité dans ce podcast parce que sinon, il faisait 4 heures.
Faut dire ce qu'il y a. C'est ce qu'on veut aussi, c'est être parfaitement subjectif.
Voilà, parce que les gens aiment. Il y a eu plein de trucs d'annoncer, donc on va faire le tri tout de suite.
Allez, on commence donc avec le gaming et un petit récap des confs. Toi, tu les as toutes vues parce que moi, j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine. J'ai regardé ça d'un œil très distrait, donc je te fais confiance pour faire un résumé qui tient la route.
Alors, ça sera pas du tout un résumé qui tient la route, parce que s'il y en aurait rien que pour faire un résumé, il y en aura pour 50 ans, je suis désolé, c'est vrai. Hein. Donc, on en a un peu parlé sur le forum, on va vous linker ça sur les billets qui accompagnent le podcast. On a essayé de faire un petit débrief, mais c'était assez pauvre, donc si on veut en retenir quelque chose, faut se rappeler que Sony n'était pas là cette année. Donc, en gros, la grosse conférence du gros constructeur, c'était Microsoft, qui était le seul à faire son truc avec les cymbales et tout le pataquès sur scène, comme d'habitude. Parce qu'il faut se rappeler que Nintendo, c'est juste une vidéo pré-enregistrée qui balance, ils se font pas chier, et ils ont bien raison, parce que du coup, ils maîtrisent complètement ce qu'ils doivent annoncer, etc. Moi, je suis assez fan de leur système Nintendo Direct, c'était plutôt bien foutu, surtout qu'ils avaient une vanne facile cette année, puisque y a le mec qui remplace Régis, l'empereur du marketing de Nintendo pendant des années, qui prenait des names et kickait des as, je sais pas, tu te rappelles pas de cette vanne en anglais, est remplacé par un mec qui s'appelle Bowser, de son nom de famille, qui est donc un personnage de chez Mario. Du coup, ils ont fait une vanne qui était évidemment un peu cringe, tu vois, mais ça passait pas mal. Après, j'ai rusé, parce que pour survivre à toutes ces présentations, j'avoue, je les ai toutes matées. En fait, d'habitude, je les mate en VO, tranquille, tu vois, sérieusement. En fait, là, je les ai matées du coin de l'œil sur le stream de Mister MV, qui les a taillées tout le temps, et du coup, c'était beaucoup plus drôle et c'était beaucoup plus digeste, car on s'est quand même bien fait chier, il faut quand même le dire. Alors, chez Microsoft, tout le monde, plein de gens attendaient l'annonce de la nouvelle machine. Moi, j'y croyais pas trop, et j'avais raison, parce que, évidemment, ils ont présenté une vidéo et plein d'annonces un petit peu autour du hardware de ce que va être la Scarlett, donc leur prochaine console, mais c'est pas du tout... Il y avait rien de concret, il y avait pas de date, il y avait pas d'annonce, il y avait pas de design de montrer. On était dans ça va aller plus vite, ça va être plus puissant, ça va être magnifique, mais on n'a absolument rien eu à se mettre sous la dent de point. Vraiment, concrètement, c'était du creux, c'était du bruit marketing. Donc, ce qui est un petit peu dommage, parce que finalement, sans être à l'E3, Sony a déjà balancé plus d'infos sur sa PS5. Enfin, on l'appelle PS5, on sait même pas si elle va s'appeler comme ça, mais logiquement, ça devrait être le cas. C'est plutôt sur les noms Microsoft qu'on est toujours un petit peu dans l'attente. Du coup, c'était une conférence un petit peu qui se cherchait. On a eu un problème hyper relou, c'est que toutes les confs étaient ultra chargées en trailer CGI, donc en trailer en image de synthèse, avec des annonces de jeux, etc., qui étaient un peu vides de sens, dans la mesure où on n'avait pas de gameplay. C'était à peu près chez tout le monde pareil là-dessus, et je pense que le clou du spectacle et de la frustration, ça a été l'annonce du prochain Halo chez Microsoft. On attendait comme un petit peu plus que ça, tu vois, et ils nous ont fait le coup et pour le prochain Halo et pour le prochain Gears of War, avec des présentations image de synthèse. Ils font un peu des esbroufs, ils s'étaient même fait une scène de la mort pour Gears of War avec des drones qui vont à l'intérieur de la scène filmer des mecs, et là tu te dis, ils vont nous montrer du gameplay, c'est obligé. Et ben non, Non, fini, jeu suivant, génial. Donc tout le 3 était comme ça, donc je pense qu'on est clairement dans une année de transition et que bah du coup on était un petit peu embêtés puisque j'ai l'impression que les mecs n'ont pas envie de dévoiler leurs cartes et de montrer les jeux tels qu'ils seront sur la prochaine génération sans avoir montré les consoles avant. Et du coup ils pouvaient pas vraiment dévoiler ce qu'ils avaient peut-être déjà préparé, tu vois. Donc c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Donc écoutez les gars, les confs comme ça on s'en passerait bien. Vous êtes pas obligés, l'année prochaine faites-nous des vidéos, on se sentira pas plus mal, c'est pas grave. Du coup je vais pouvoir enchaîner quand même avec Nintendo qui lui a montré des trucs qui étaient un petit peu sexy, mais sans en dévoiler des tonnes. Le truc qui a fait baver le plus de gens, c'est l'annonce de la suite de Zelda Breath of the Wild, avec un teaser. Je sais pas si tu l'as vu celui-là, c'était un teaser un peu dark, ambiance Twilight Princess. Apparemment il y aura des liens entre les deux jeux en fait. Le Zelda de l'époque était un petit peu avec des pouvoirs, on va dire on est moins dans les fleurs et dans les trucs dorés, tout va bien. Du coup on sait pas trop quel va être le scénar, il y a déjà des théories de 15 km de long sur le net, j'adore les fans. Ils ont fait pleurer toujours d'autres fans en revanche avec l'annonce du report d'Animal Crossing sur Switch New Horizons qui sort en mars 2020. J'ai vu des gens pleurer. Bon, vous pourrez cultiver vos panais en 2020, tout va bien, détendez-vous. Ils ont aussi montré, alors ça c'est beaucoup plus proche de nous, c'est Zelda Link's Awakening, le remake, et ouais, parce que vous n'avez pas assez joué à l'autre,
c'est ça,
à l'original, qui sort le 20 septembre sur Switch. Alors c'est un remake que je trouve assez mignon, et le design divise à mort, donc il y a plein de gens qui le trouvent trop moche, il y a des gens qui le trouvent vraiment super cute, moi ça m'a pas choqué, je trouve ça pas mal. Donc voilà, ça sort bientôt et ça va vous permettre de patienter. Dans les titres, alors je vais pas vous citer tous les titres qui sont à retenir, je vais juste citer trois jeux qui étaient vraiment un peu les choses qu'on attendait pas, qui étaient des surprises un petit peu intéressantes. Il y a eu Watch Dogs Légion, et oui, un Watch Dogs, j'en parle, incroyable.
Allez.
Chez Ubi, qui nous a montré ça, qui sort en mars 2020. Pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, ils ont fait un truc avec ce Légion qui est plutôt intéressant, si ça tient la route, hein, encore une fois, on s'en fiche trop rien. C'est que tu vas pas avoir un perso, c'est que cette fois, tu vas pouvoir recruter plein de personnes. Et quand tu foires une mission et que ton mec meurt, et ben, il est mort. Il revient pas, permades, et tu changes de personnage, t'essayes de refaire la mission avec un autre perso en fait, avec des
skillsets
différents. C'est du roguelike façon, faut pas non plus tous les crever parce qu'il faut bien les recruter les mecs, tout ça ouais. C'est scénarisé, mais du coup tu te retrouves avec une galerie de personnages, en tout cas dans la démo E3, c'est une démo Ubi à l'E3, on sait ce que ça vaut, voilà, when the downgrade comme disent les ricains. Du coup on verra bien ce que ça donne, mais tout le monde était mort de rire parce qu'à un moment ils ont présenté une mamie. Ouais, une mamie ancienne assassin, donc avec de beaux restes, qui se balade avec sa canne et ses petits bobs à l'anglaise, et qui, tu dirais la reine d'Angleterre qui va éclater des gens. Et c'était plutôt pas mal, on s'est bien marré, et du coup tout le monde est un petit peu intrigué en se disant, est-ce que chaque perso va vraiment être très différent? Ou est-ce que tu vas te retrouver avec finalement un skill set relativement standard d'un perso à l'autre? Auquel cas, ça perd tout son intérêt puisque tu ouais. te retrouves juste avec un truc de skin. Donc, on a hâte de voir ça. Et j'avoue que moi, qui suis complètement hermétique à la licence depuis le fiasco du 1, alors que le 2 était pas si mal, hein, mais j'ai pas du tout réussi à m'y remettre. Et du coup, j'attends le Légion avec impatience chez Ubi. Alors, je vous passe. Ils nous ont montré Monsieur Punisher, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom et à m'en rappeler non plus, qui va être le personnage principal pour le prochain Ghost Recon, qui était largement mis en avant dans un nouveau trailer.
John Berntal.
C'est ça, exactement. Ouais. Alors lui, sa voix et sa gueule dans un Ghost Recon, c'est validé, hein, évidemment, plus il joue le méchant, donc c'est encore plus parfait. Mais il n'y a pas eu assez de gameplay, et la démo technique Andy et machin qu'on a fait, on ne peut pas en parler, donc on va attendre tranquillement. Le jeu que j'attendais, évidemment, comme plein de gens qui avaient déjà été annoncés, c'était Cyberpunk 2077. Et Cyberpunk 2077, on a eu Keanu Reeves sur scène, et oui, ça c'était la vraie surprise des conférences, qui va en fait interpréter un personnage dans le jeu qui s'appelle Johnny Silverhand, qui je vais pas trop vous en dévoiler, mais a priori c'est une IA en fait, tu le vois mais tu le vois pas, il est dans ton implant, il te parle, il veut sauver sa petite amie, tout ça, tu ne sais pas vraiment s'il te manipule ou pas, enfin je pense qu'il y a plein de trucs à faire, hein, c'est du cyberpunk. En revanche, pour la démo, il y a des gens qui étaient très contents et des gens qui étaient moins content en disant que l'IA était quand même un peu aux fraises, et qu'ils avaient un petit peu peur que les différents scénarios, les différentes façons de résoudre les problèmes dans le jeu, les combats, les hackings, etc., soient un petit peu bourrines, enfin Ils ont trouvé que même le Netrunner, qui est censé être le perso stealth, hacker et tout, était quand même très fort en combat. Donc ils avaient un petit peu peur de ça. On verra bien, ça sort le 16 avril 2020 sur PS4, Xbox One et Windows PC. Je crois que tu voulais nous parler de Avengers, puisque c'est ta cam quand même.
Bah oui, Avengers, moi je suis très triste. Donc on parle de l'Avengers de Square Enix, hein, la licence officielle avec Marvel et tout, autour des personnages des Avengers. Dont j'attendais rien et qui a quand même réussi à me décevoir. Ils ont présenté donc une cinématique, c'était la mode comme tu le disais tout à l'heure, hein, des cinématiques sans gameplay, et c'était pas terrible. Il y a plein de trucs qui vont pas dans cette cinématique. Déjà on sent que ça a été écrit avec les pieds, les vannes marchent pas du tout, on sent qu'ils essaient de surfer sur le MCU, donc les films Marvel Studios, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde manifestement. Et puis il y a cette espèce de gros problème de design des personnages qui ont absolument aucune identité. Ils ont essayé de vaguement copier les looks des personnages des films, mais sans pouvoir utiliser les likeness, comme on dit. Ouais. Donc ça ressemble à rien. Et on en parlait hier dans les clairvoyants avec Thomas justement, et on disait, Thomas disait très justement, ils auraient mieux fait carrément se créer des nouveaux designs de perso ou carrément faire du mocap des gens qui ont fait le voice acting, parce que là franchement ça ressemble à rien. Il y a zéro identité, c'est des trucs tout plat, tout terne, ça n'a aucun intérêt. Et je me suis dit bon, c'est pas grave si les cinématiques sont pas bien, peut-être que le jeu l'est. Et j'ai lu donc Gotoz a pu voir pour Gamekult une demi-heure de jeu solo je crois, et donc clairement on se dirige vers du game as a service, donc avec une espèce de phase solo pour apprendre à maîtriser les personnages, et puis après du contenu qui va être ajouté au fur et à mesure. Et pour le moment ce qu'il a vu l'a vraiment pas convaincu, et c'est un euphémisme. Donc voilà, je vous linkerai le papier de Gamekult de notre ami Gotoz qui relate tout ça. On attendra de voir, comme disait Thomas aussi hier, sur la longueur peut-être que ça va prendre de la bouteille et que ça va finalement proposer des trucs plutôt sympas à terme, et que là ils sont peut-être pas prêts ou que sais-je. Mais en tout cas moi ce que j'en ai vu et ce que j'en ai lu m'a vraiment pas donné envie, alors que de l'autre côté le Ultimate Alliance 3 me donne bien envie d'aller investir dans une Switch. Donc voilà, c'est un peu loupé de ce côté-là, et j'étais très très triste. Et toi tu voulais nous parler encore d'un truc côté Konami, c'est ça?
Ouais, je vais quand même terminer sur le 3 en vous disant qu'il y a quand même 3 titres qui sont à suivre, mais dont on a tellement pas d'infos que je voulais pas trop en parler. Mais si vous voulez mater les trailers, c'est Ghostwire Tokyo même, qui propose une cinématique intrigante avec des gens qui disparaissent et on sait pas du tout pourquoi, et du coup on a aucune idée du gameplay, mais j'ai envie de regarder le film en tout cas s'il y en avait un. Et la mode de l'E3 c'était les time loop en fait, donc il y a un jeu qui s'appelle Deathloop par exemple qui a été annoncé, où il se passe des choses et tu reviens dans le temps et t'essayes de faire quelque chose de différent pour éviter de te retrouver dans The Grand, putain.
J'allais le dire et puis je me suis dit je vais te laisser le prononcer parce qu'à mon avis ça va être trop compliqué. Groundhog Day.
Voilà, merci. Je ne coupe même pas au montage. Il est trop tard, j'ai faim. Laissez-moi tranquille. Et du coup, le dernier truc évidemment qui a été le plus noté chez les geekzoniens, c'est Elden Ring, qui est en fait un titre qui est fait par From Software, donc nos amis qui aiment vous faire mourir en boucle dans toute la série des Souls. Et avec un petit gars qui perce pas mal dans le game de l'écriture, qui s'appelle George R.R. Martin, qui aime bien ne pas finir ses livres d'ailleurs, qui est donc le monsieur qui fait Game of Thrones, hein, pour ceux qui ne suivaient pas. Et Martin, pareil, on connaît pas trop son niveau d'application exactement dans le jeu, etc. On sait que c'est Hidetaka Miyazaki qui s'occupe du jeu. Il va falloir attendre. C'est un peu le problème de cette E3, c'est qu'il y a eu des annonces vraiment. On vous lâche un titre, on vous montre 3 trucs et on se casse. Et bon, alors quelques jeux ont été après présentés avec des hands-on dans les petites salles derrière quand tu avais les bonnes accréditations, mais c'est pas le cas pour tous, donc je vous annonce que c'est quand même le 3 de la patience. Et effectivement, j'allais quand même parler d'une petite nouveauté de chez Konami qui suit la vague. Je pense que une fois que eux ont sorti leur truc, je crois qu'on aura fait le tour. Donc de quoi je parle de la PC Engine Core Graphics Mini. Et ouais, eux aussi, ils font dans la mini console rétro pour jouer sur la nostalgie. Donc ça, c'est une console qui avait été faite par NEC dans les années 80, fin des années 80, qui s'appelle la TurboGrafx 16 Mini aux US, parce que évidemment, comme la version d'origine n'était pas la même que chez nous, ils ont respecté la problématique avec un design différent. Par contre, on aura les mêmes jeux qu'aux États-Unis, et au Japon, comme d'habitude, ils auront un set de jeux différents. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de date, on n'a pas de prix, on n'a pas la liste des jeux jeu complet. On sait juste que ça sera évidemment avec une sortie HDMI classique, qu'il y aura une gestion du multitape qui était un accessoire qu'il faudra acheter à part et que si vous l'avez toujours dans le monde, je pense qu'il servira à rien parce que je pense qu'il va falloir une version USB, enfin je l'imagine, qui permettait de jouer à plein à Bomberman et ça c'était rigolo. Vous aurez les modes classiques émulation, tu sais, avec les Skyline pour faire croire que t'es sur un CRT dégueulasse alors que tu viens d'acheter ta télé OLED à 12 000 boules.
C'est ça.
et dans les jeux annoncés, on n'a pas la liste complète, mais on a quand même quelques titres annoncés. On a des inévitables, genre Air Type de 1989, le New Adventure Island de 92, Ninja Spirit qui était sorti en 88, qui est excellent, très bon jeu d'action. Is Book 1 et 2 en 90, un flipper rigolo qui s'appelle Alien Crush et Dungeon Explorer. Donc du coup, eux, ils annoncent une vingtaine de titres, on ne sait pas exactement encore, puisqu'on n'a pas la liste complète. Ce qui met la pression à tout le monde, c'est que Nintendo a toujours été un peu chiche, tu sais, t'avais une 20, 22, 23 jeux. Mais en fait, depuis, t'as Sega qui a sorti sa Mega Drive Mini, qui sort, enfin qui n'a pas sorti, mais qui a annoncé sa Mega Drive Mini qui sort le 19 septembre pour $80 aux États-Unis. Et eux, ils ont carrément annoncé 42 jeux et les retours sont assez excellents. Et en plus, ils ont été à fond dans le trip nostalgie, où, parce que tu vas pouvoir acheter des accessoires de l'époque en version mini plastique fake. Qui ne servent à rien, donc avec des mini cartouches pour mettre dans ta console qui servent à rien puisque les jeux sont déjà tous dedans. Le mini 32X, donc qui était l'extension que tu pouvais mettre dessus, et le mini Mega CD qui se mettait en dessous, donc tu pourras faire la mini tour Mega Drive de l'époque en plastoc qui sert à rien, mais voilà, la nostalgie est au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Donc j'attends de voir ce que ça va donner du côté de Konami, mais en tout cas, la liste de jeux déjà qui a été annoncée est très solide. Il y avait plein de bons jeux, même si la console n'a pas connu un succès de ouf, surtout aux États-Unis. Il y avait plein de bons jeux et d'ailleurs moi il faut que je trouve un mec qui répare ce genre de machine car j'avais acheté, c'est ma première console que j'avais acheté au Japon, j'ai la version mini GT en fait de cette machine, PC Engine GT, mais comme toutes les machines de l'époque, et j'ai tous les capacitants, enfin les trucs électroniques à l'intérieur, tu vois, qui sont en train de crever et du coup qui sont en train de détruire la carte en dessous et qui donc la console ne marche plus, et tout ça se change, mais je ne m'aventure pas à faire ça avec un fer à souder, ça va mal se terminer. Donc voilà, si vous connaissez des gens, allez sur le forum ou des magasins, sauvez-moi la vie, merci. Enfin, sauvez la vie de la console surtout. Ça me fera très plaisir.
Allez, on passe du côté des apps et on va taper encore une fois sur une méchante app d'agrégation de podcasts. C'est l'occasion de faire un petit rappel en vitesse. Donc, vous avez sûrement suivi un peu la polémique autour de Magellan, cette app qui a été lancée par Mathieu Gallet, un ancien de Radio France, et qui s'est approprié donc dans son catalogue un paquet de podcasts qui n'avaient rien demandé et certainement pas d'être là. Du coup, ça a fait grincer des dents et je pense que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que comme on vous le répète régulièrement, on en a parlé quand on a parlé de Luminari, on a souvent besoin d'aller demander à ces gentilles applications de bien vouloir nous déréférencer de leurs apps pour arrêter de vendre leur soupe sur notre dos. Donc voilà, Magellan ne fait pas exception à la règle. On a du coup mis en ligne, nos amis de Radio Kawa ont mis en ligne un manifeste qui explique un petit peu tout ça, pourquoi est-ce qu'on n'est pas content et pourquoi on ne veut pas être sur ces apps. On vous invite à aller le lire, on vous le linkera dans le billet qui accompagne ce podcast, on va pas s'éterniser non plus, mais c'était l'occasion peut-être de rappeler quand même aux gens qui ne suivent pas l'actualité des podcasteurs que ça se fait de plus en plus ce genre de pratique, tout ça pour pouvoir lever des fonds en gonflant artificiellement leur catalogue et en intégrant donc de force des podcasts qui n'ont rien demandé. Donc nous, ça nous arrange pas trop et on n'a pas envie de participer à leur business plan.
Surtout les mecs confondent complètement le fait que ça soit gratuit avec tout bêtement les droits d'auteur, la
libre,
liberté d'utiliser
le
truc, tu vois, les mecs se disent c'est open bar. Non mon gros, c'est pas du tout open bar.
C'est ça, la réponse officielle de Mathieu Gallet quand Radio France a demandé à ce que ces podcasts soient déréférencés, ça a été de leur dire arrêtez de faire des flux RSS et on arrêtera de la mettre dans notre catalogue. Donc super, merci les gars. Donc je pense que là voilà, on va encore en entendre parler à mon avis dans les semaines qui viennent. On vous invite donc à aller lire, il y a un récap que je vous linkerai de toute l'affaire Magellan qui est plutôt complet chez radiotips.fr et puis le manifeste donc podcastouvert.fr. Et tu voulais nous parler de Twitterific 6.
Exactement, petite application qui continue sa vie alors que Twitter ne fait aucun effort pour ouvrir son API, comme d'habitude. C'est un des meilleurs softs pour se connecter sur Twitter, sur iOS et macOS. Il n'est pas dispo sur Android, je m'excuse. Et en plus, je voulais en parler pour deux raisons, parce qu'ils ont fait une upgrade, mais en silent upgrade. Enfin, d'habitude, tu vois, t'es obligé de te connecter, télécharger la nouvelle version, etc. Là, ils ont fait un truc très simple, c'est que le Twitterific 5 n'était pas pas vrai, enfin ils ont réussi à changer le nom de l'application, et du coup si t'avais la version 5, et ben en fait c'est devenu la version 6, et ils ont comme ça pu mettre à jour chez tout le monde, chez tous leurs clients actuels, le produit, et ça c'est plutôt rigolo. Ce qui a moins fait rire les gens, malheureusement, c'était le côté pricing de l'application, puisque elle est gratuite avec un bandeau de pub en haut pour tout le monde. Et après, en fonction de tes moyens et de tes envies, bah, tu peux payer. Alors, les prix, c'est 1€ par mois, 10€ par an ou 32 pour toujours. Et là, ça va débloquer complètement l'application. Sachant que quand tu l'achètes, et on va dire qu'il y en a un set qui sort un jour, en fonction de ce que tu as payé avant, il y a un système dégressif, voire ils te le font gratuitement. C'est ce qui s'est passé pour des gens qui avaient donné, par exemple, de l'argent sur la version 5, qui n'ont pas les pubs sur la version 6, tu vois. Donc, c'est plutôt malin. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ça queen de manière hallucinante. Et je comprends pas, enfin si je comprends, mais il faut quand même se rappeler aux gens maintenant que bah, le personne vous force déjà à acheter les applis si vous n'avez pas les moyens. Et deuxièmement, bah, développer des softs de cette qualité et continuer de les développer, de les supporter, de faire des mises à jour, etc. Bah, c'est pas gratos. Et là, les gens sont vraiment mal habitués aux softs gratos ou à 1€ sur mobile, voire gratuit. Merci Monsieur Google. Avec bah, les Gmail et compagnie, mais bah, tout ça, il y a un revers de la médaille, on l'oublie un petit peu trop souvent. Donc les boîtes indépendantes qui voudraient bien manger, ils font des vrais prix, et eux, ils assument leurs vrais prix. C'est le même cas pour Tweetbot ou par pas mal d'applications du genre sur iOS, où les gens disent « Oh, voilà, c'est quand même vachement cher. » Bah non, mais restez sur des téléphones Android à 100 balles si vous n'avez pas les moyens, mais en même temps, venez pas râler en tweetant ça depuis votre téléphone à 1000€, tu vois. Donc, il faut un petit peu être logique, et je pense qu'on va avoir un retour de bâton sur le développement software là-dessus, où t'as quand même une prise de conscience à avoir sur les coûts et les faits que s'il y a des applis qui meurent comme ça, parce que les mecs se sont dit qu'ils allaient s'en occuper à mort, alors que ça leur rapporte que dalle par an, non, il y a un moment, les gars s'en occupent pas. Donc si vous voulez qu'une application perdure, il faut bien comprendre qu'elle va devoir, enfin, il faut bien qu'il mange, donc il faut l'acheter. Il n'y a pas de secret. Ou alors, c'est que le business model, il est autour de la pub, il y a une arnaque quelque part, il n'y a pas de souci. Hein. Vous demanderez à Mathieu Gallet, il a l'habitude. Donc, les trucs comme ça, c'est un petit peu pénible, ce genre de réaction, et je pense qu'on va en parler régulièrement, parce qu'il va falloir le marteler, et si vous avez conscience de ça, expliquez-le autour de vous, parce que je pense que ça va être très très long pour faire comprendre aux gens que non, l'informatique, ce n'est pas gratuit.
Allez, on passe du côté de la culture, et en parlant de gratuité, un petit coucou à nos amis de Radiohead qui ont vécu une histoire un petit peu bizarre ces derniers jours, cette semaine. J'ai vu pas mal d'articles dans la presse qui relataient l'histoire de manière pas très fidèle, donc on va essayer de remettre un petit peu d'or très vite là-dedans. Donc il y a en fait un kit de mini-disques qui sont des sessions d'enregistrement de l'album OK Computer de Radiohead qui ont été dérobées au groupe, et en fait ça a repopé en fait sur un forum, sur un Reddit dédié donc au groupe, avec un mec qui disait voilà, moi j'ai du contenu exclusif, j'ai environ une vingtaine d'heures d'enregistrement, je sais pas quoi en faire, est-ce que ça intéresse des gens de le racheter, etc. Il a réussi donc à finalement faire passer des extraits pour prouver qu'il était effectivement en possession de trucs assez originaux, et en gros le mec il a estimé que ça valait 150 000 $, donc voilà, il a dit si ça intéresse quelqu'un, moi je revends 150 000 $. Donc ça n'a pas été une histoire de rançon comme j'ai pu le lire sur plein de sites où en gros on disait que le pirate avait rançonné Radiohead en disant payez-moi 150 000 $ sinon je release le truc. Ça n'a pas été le cas, hein. Ça s'est pas passé comme ça, mais bon, globalement c'est un peu le même principe de malhonnêteté, on va dire. Et le groupe a super bien réagi, en fait. Ils se sont dit bah écoute, si c'est comme ça, nous en fait on va le sortir nous-mêmes, on va sortir ces 28 heures d'enregistrement ou ces 20 heures d'enregistrement, je sais plus combien il y en a exactement, on va balancer ça sur Bandcamp, on va le vendre une vingtaine d'euros, et on va reverser en fait tous les bénéfices à une association caritative. Donc voilà, je trouve que la réaction du groupe est assez chouette.
Well done, ouais.
Et en gros, donc Johnny Greenwood, qui est le mec qui a communiqué là-dessus, qui est un des membres du groupe, disait voilà, en même temps, on va pas se mentir, ces heures d'enregistrement, c'est des essais, c'est des démos, c'est des jams, c'est pas fondamentalement super intéressant, ça intéressera probablement que les fans purs et hardcore. Mais voilà, du coup, si vous voulez vous procurer ça, c'est disponible désormais sur le Bandcamp du groupe, et sachez que bah, tous les bénéfices seront reversés à une association caritative. Prends ça, mon ami pirate. voilà, moi je dis que c'est bien fait, c'est plutôt
J'adore.
Une réaction classe. Voilà, c'est un groupe
ça,
qui a
classe.
Toujours qui a toujours su gérer sa com de manière intelligente. Et puis on va parler série télé, puisqu'on a pu voir les deux premiers épisodes de Swamp Thing.
Ouais.
Swamp Thing, donc c'est la nouvelle série de DC Universe, qui nous avait déjà proposé un Titans, qui était plutôt pas mal, mais pas foufou non plus, mais surtout Doom Patrol, dont moi je suis complètement fou amoureux. Et Swamp Thing, ben ça part sur un autre registre en fait, puisque c'est une série qui n'est pas connectée, contrairement à Titans et Doom Patrol qui se passe dans le même univers. Là c'est dans un truc un peu à part, et on comprend pourquoi vu la thématique. Donc je rappelle en vitesse, hein, Swamp Thing c'est un personnage des comics qui est une espèce de créature des marais, pour faire court, et donc on retrouve un peu cette thématique là dans les deux premiers épisodes. Ça a été développé par Gary Doberman, qui est un monsieur qui avait bossé notamment sur les films Conjuring, donc qui s'y connaît un peu en horreur, et puis Mark Verheiden, qui est un scénariste de télé qui avait bossé notamment sur Falling Skies. En gros, l'avis très rapide que je peux vous donner sur ces deux premiers épisodes, c'est que c'est pas mal, mais ça prend un peu son temps. On attend quand même tout le premier épisode avant de voir enfin arriver Swamp Thing, ce qui est quand même un peu dommage pour une série qui parle de ça, surtout que a priori ça va être assez court, hein, c'est du 10-15 épisodes max à mon avis. Donc c'est pas foufou, mais c'est pas non plus mauvais, et c'est pour le moment un peu difficile de donner un avis définitif sur ces deux premiers épisodes. J'ai l'impression que ça traîne un petit peu en longueur, j'espère que ça va s'arranger. Malheureusement pour ceux qui voudraient s'y mettre, ben sachez que la série a déjà été annulée.
C'est pas un indice de la qualité du truc, ça.
Alors justement, il y a une polémique autour de ça, je vous linkerai aussi un papier qui en parle. En fait, la série, elle a été annulée après la diffusion du premier épisode. Faut savoir que c'est des séries donc sur du streaming, donc c'est des plateformes qui à la base s'en foutent un peu des audiences. Ce qu'elles veulent surtout, c'est récupérer des abonnés. Donc qu'elles l'annulent après le premier épisode, c'est vraiment très 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 étrange, d'autant plus que tous les épisodes sont déjà tournés, qu'ils vont être diffusés, donc on aura droit à la saison, la première saison en intégralité malgré l'annulation. Ça a surpris même James Wan, qui est un des producteurs exécutifs de la série, qui n'était pas au courant visiblement. Et il y a des rumeurs en fait qui circuleraient comme quoi DC Universe, en tout cas les costards cravates de DC Universe, seraient pas très contents parce qu'il y a eu des gros dépassements de budget, ils trouvent que voilà, ça se fait pas, et donc ils ont décidé d'annuler la série. Donc est-ce que ça va être une décision définitive? Pour le moment, la communication officielle de la chaîne est un peu bizarre. Dans le papier que je vous linkerai, vous verrez qu'il y a une communication un peu en demi-teinte sur un forum où un des représentants de la chaîne balance le bullshit traditionnel, hein, en expliquant que il est content qu'il y ait des fans machin, et que il est très il comprend bien que tout le monde soit déçu, mais que voilà, c'est comme ça, et a priori il donne pas d'explication non plus. Donc c'est vraiment une très 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 étrange affaire. Je veux dire, si à partir du moment où tu considères que la série a pas marché, t'attends quand même la fin de la série, surtout si t'as déjà tout tourné, pour prendre ta décision. Là ça sent un petit peu l'énervement du côté des décideurs de DC Universe. Donc voilà, on vous recommande quand même d'aller jeter un œil à la série si vous avez l'occasion, si vous avez un oncle d'Amérique qui peut vous envoyer les VHS. Sinon, ça devrait normalement sortir sur Netflix quand tout aura été diffusé sur DC Universe, puisque on rappelle que DC Universe a un deal avec Netflix pour diffuser ses séries chez nous, enfin en tout cas en dehors du territoire américain, une fois qu'elles ont été complètement diffusées sur DC Universe. Voilà, c'est la fin de la rubrique culture. On va passer du côté de la tech avec plein de choses que moi je ne comprends pas.
Voilà, c'est une spéciale AMD, parce que pendant le 3, il y a eu la conf PC, et pendant la conf PC, il y a eu toutes les annonces de monsieur AMD, qui aime bien présenter toutes ces solutions à ce moment-là, parce qu'ils ont bien compris que le gaming était un des rares secteurs dans le monde PC à continuer de vendre des palettes de produits, et qu'il fallait être présent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont l'air en forme, les petits gars d'AMD, donc ça c'est cool, parce que nous, la concurrence, on aime ça, parce que ça garde les prix dans des fourchettes un petit peu raisonnables. Sinon on voit ce que ça donne avec nos amis de Nvidia qui ont pris leurs aises, et ils ont eu raison d'en profiter, hein. Donc AMD, ils ont annoncé deux choses. Ils ont annoncé la nouvelle microarchitecture Zen 2, qui en fait elle est au cœur de leur nouveau processeur Ryzen, qui sont les concurrents des i7, i5 et compagnie chez Intel. Et donc le nouveau Ryzen, c'est la série 3000. Ils ont aussi annoncé des choses qui sont plus orientées serveur, etc., avec une nouvelle archi, mais ça on va pas en parler. Je vous ai linké, parce que c'est extrêmement chiant à faire en podcast, mais alors là je vous cache pas que je pourrais être tenté de le faire un jour, tu vois, un podcast spécial hardware comme ça, où je vous lis toutes les specs, et je pense que vous aurez aucun problème à vous endormir. Tu vas voir, je pense qu'il y a un truc, tu vois, on pourrait le vendre au même rayon que l'homéopathie, ça va bien se passer. Donc ce processeur, plus sérieusement, donc c'est la troisième génération, il y a 6 modèles d'annoncés, et les prix vont de 200 à 750 dollars. Le processeur à 750 dollars, c'est un monstre, qui d'ailleurs coûte, vous dites 750 dollars, $500 pour un processeur, c'est cher. Vu ce qu'ils ont mis dedans, finalement, c'est plutôt raisonnable. Les perfs ont l'air très prometteuses. Et donc, on va de 6 à 16 cœurs pour chaque processeur. Donc, évidemment, celui à $750, c'est 16 cœurs, donc 32 threads. On est quand même sur du lourd, de chez lourd. Ils ont fait des démos assez hallucinantes à base de streaming, où là, t'as plus du tout besoin de deuxième PC pour pouvoir jouer au max et streamer au max en même temps. Bon, ils ont pas été très gentils parce qu'ils ont fait une démo avec les processeurs Intel à côté, avec les mêmes settings, et donc l'autre c'était un slideshow, hein. Alors que eux ils étaient en train de balancer du 60 FPS 1080p nickel chrome. Bon, évidemment c'est une démo de constructeur, hein. On attendra de l'avoir sur les bureaux pour juger. Mais la deuxième bonne nouvelle de ces processeurs, c'est que la conso électrique est maîtrisée, donc c'est pas ultra conso comme d'habitude. On est sur des enveloppes énergétiques qui sont pas débiles. T'as pas l'impression d'avoir besoin d'une centrale nucléaire dans ta baraque. Donc ça met un coup de pression à Intel qui a pas vraiment d'équivalent du tout à cette gamme. Maintenant, on va attendre tranquillement la sortie le 7 juillet pour avoir les vrais tests des vrais gens qui ont les vrais processeurs entre leurs mains. Parce que pour l'instant, je vous rappelle que c'était une présentation sur scène avec, on va dire, des petites conférences derrière avec des spécialistes qui ont eux écrit des petits papiers. Et du reste, je vous link le papier. Alors, c'est Ars Technica cette fois. Ce sont nos amis de chez Anantech qui ont fait un roman sur la nouvelle microarchitecture de ces processeurs, et ils ont l'air quand même, voilà, tu vois, confiants les mecs, mais bon, ils vont sortir leur test le 7 juillet, je pense qu'ils ont déjà les samples actuellement, ils vont faire leur test et le NDA doit s'arrêter le 7 juillet, donc j'imagine que tout ça va sortir au même moment. Mais si vous voulez upgrader votre configuration, bah attendez un petit peu, parce que j'ai l'impression que AMD là se pose définitivement non seulement en troublion, mais carrément en leader niveau perf, hein. J'attends de voir ça avec impatience. Après, ça sera peut-être pas le cas, mais c'est quand même bien parti. Et il y avait aussi leur carte graphique. Donc là, on attend évidemment les concurrents des RTX, etc. Ce n'est pas encore le cas. Ils n'ont pas présenté des flagships qui explosent tout au niveau des performances, mais ils ont présenté leur nouvelle Radeon RX 5700 et 5700 XT, qui sortent aussi, enfin qui vont être dévoilés officiellement au niveau des tests le 7 juillet de la même manière que leur processeur. Et pour le 7 juillet, on aura accès uniquement au design de référence, hein, c'est-à-dire la carte fabriquée de A à Z par AMD qui va être revendue par différentes marques, mais ça ne sera pas des designs customisés comme on peut en trouver un peu plus tard sur le marché. Et les prix vont être entre 400 et 500 euros. Alors c'est $379 pour la 5700 et 449, je crois, dollars toujours, donc hors taxe chez nous, pour la 5700 XT, avec des perfs pour la XT qui se placent au niveau d'une RTX 2070 a priori, qui vaut un tout petit peu plus cher. Alors, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, la vache, ça va être vachement moins cher. Mais en fait, non, j'ai vérifié les prix, ça joue à $50 entre les deux. Donc, ils ont pas non plus de raison de les brader, mais ils ont l'air extrêmement confiants dans leur nouvelle architecture qui s'appelle RDNA. Alors, ils ont rajouté tous les trucs qu'on attendait pour une carte de cette génération avec de la GDDR6, mais elles sont gravées en 7 nanomètres, qui est vraiment le plus fin qu'on puisse faire actuellement. Que pas grand monde ne fait d'ailleurs. Donc, c'est plutôt un bon point pour eux. Ça leur permet d'avoir des perfs intéressantes et de pas trop chauffer, etc., etc. En revanche, contrairement à leur processeur, là, ça risque de consommer pas mal. Donc, votre nouvelle alimentation de 1000 watts que vous avez acheté parce que vous aviez peur va peut-être servir. Non, j'exagère, ça sera pas tant que ça. Mais en tout cas, on attend de voir les vrais perfs. Là, ils ont été assez rigolos parce que, que ce soit pour les CPU ou pour ces cartes, ils ont montré les graphes, tu sais, où ils comparent avec la concurrence. Et d'habitude, quand tu fais genre de présentation, les mecs se la racontent en mode genre, on est tellement trop fort et tout. Et là, il y avait des tests où les mecs étaient en dessous, tu vois. Alors, vraiment pas beaucoup en dessous, mais du coup, c'était hyper crédible parce qu'ils sont là, genre, sur tel jeu, on est en dessous, là, au-dessus, machin. Et ça avait pas l'air d'être n'importe quoi. Et les premières rumeurs de couloir disent que non, ils ont fait ça bien. Donc écoute, on va attendre de voir. Par contre, pour le flagship et les vrais perfs de la mort, enfin en tout cas on espère, ça sera plutôt en fin d'année si j'ai bien compris. Donc voilà, on se revoit en mois de juillet pour faire le bilan de tout ça et voir ce qu'on achète dans nos prochains PC. Mais en tout cas, AMD en forme, c'est de toute façon une bonne nouvelle pour l'industrie. Et on attend d'ailleurs de voir ce qu'ils vont faire avec les SoC, donc les systèmes en chip, etc., parce que les architectures qu'ils ont sont vraiment prometteuses, du coup déclinables sur plein de machines, et je vous rappelle que c'est ce qu'il va y avoir dans les prochaines Xbox et PlayStation. Donc apparemment ils ont bien dépensé l'argent de Sony et Microsoft sur leur développement. C'est une très bonne nouvelle.
Et
Et c'est la fin de ce 93e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, on va passer un petit week-end au calme, j'espère.
Enfin, surtout, ouais, surtout, enfin, si on n'a pas internet, parce que les gens ne savent pas, mais on a galéré pour enregistrer ce podcast.
Ouais, on a du mal avec nos connexions respectives en ce moment. C'est un peu, depuis tout à l'heure, en fait, je t'écoute parler. J'ai l'impression d'entendre un mec qui me parle dans mon GSM sous un tunnel, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Heureusement, la magie du montage va faire en sorte que vous n'entendrez pas tout ça.
C'est
mais
clair.
C'est vrai qu'on a, on a tous les deux des petites galères. Le timing est pas très bon, on va dire.
C'est ça. Et moi, j'ai réussi à avoir ma connexion fibre qui est partie tout à l'heure. Elle a fait genre, non, j'ai plus envie.
Moi, je me cache pas en vacances.
Mais uniquement pour Mumble. C'est-à-dire que tout marchait sauf Mumble. Donc, tu te dis, bon, bah, ok, très bien. Donc, voilà, écoutez, les amis, on va espérer qu'on pourra jouer en ligne ce week-end. Déjà, ça sera
c'est
pas
ça.
Mal.
Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
L'éclairvoyance, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Hey, how's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died, too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?